Deuxième partie. Section 3. Substance primordiale et pensée divine. De même qu'il serait déraisonnable d'affirmer que nous connaissons déjà toutes les causes existantes, il faut, si c'est nécessaire, pouvoir supposer un agent entièrement nouveau. En présumant, ce qui n'est pas encore strictement exact, que l'hypothèse des ondes explique tous les faits, il nous reste à décider si elle démontre l'existence de l'éther ondulatoire. Nous ne pouvons pas affirmer positivement qu'aucune autre supposition n'expliquera les faits. Il est admis que l'hypothèse corpusculaire de Newton s'est brisée sur les interférences, et il n'y a actuellement pas de rival. Cependant, il est très désirable, dans toutes les hypothèses de ce genre, de découvrir quelques confirmations accessoires, quelques preuves à Hyundai, entre parenthèses ailleurs, de l'existence de l'éther supposé. Quelques hypothèses consistent en suppositions au sujet du détail de la structure et des opérations des corps. Par la nature des choses, le bien fondé de ces suppositions ne peut être directement prouvé. Le seul mérite consiste à être de nature à exprimer les phénomènes. Ce sont des fictions représentatives. Extrait de Logique par Alexandre Bain. L'éther, cette hypothétique protée, l'une des fictions représentatives de la science moderne, qui fut néanmoins si longtemps acceptée, est l'un des principes inférieurs de ce que nous appelons la substance primordiale, entre parenthèses akasha en sanskrit, l'un des rêves de jadis qui est redevenu le rêve de la science moderne. C'est la plus grande, comme c'est la plus hardie parmi les spéculations des philosophes antiques ayant survécu. Pour les occultistes, cependant, l'éther, comme la substance primordiale, sont des réalités. Bref, l'éther est la lumière astrale et la substance primordiale est l'akasha, l'upadi de la pensée divine. Dans le langage moderne, on appellerait plutôt cette dernière l'idéation cosmique, l'esprit, et on donnerait à l'éther le nom de substance cosmique ou matière. Cet alpha et cet oméga de l'être ne sont que les deux aspects de l'unique existence absolue. Dans l'Antiquité, on ne s'adressait jamais à l'absolu, on ne le mentionnait même sous aucun nom, sauf dans les allégories. Dans la plus ancienne des races aryennes, la race hindoue, le culte des classes intellectuelles n'a jamais consisté dans une adoration, si fervente qu'elle fût, des merveilles de la forme et de l'art, comme chez les Grecs, adoration qui aboutit plus tard à l'anthropomorphisme. Mais tandis que le philosophe grec adorait la forme et que le sage hindou seul percevait le rapport réel de la beauté terrestre et de la vérité éternelle, les ignorants de toutes les nations n'ont jamais compris ni l'une ni l'autre. Ils ne les comprennent pas même de nos jours. L'évolution de l'idée de Dieu a lieu concurremment avec la propre évolution intellectuelle de l'homme. C'est si vrai que l'idéal le plus noble que puisse atteindre l'esprit religieux d'une époque semble n'être, aux yeux de philosophes de l'époque suivante, qu'une grossière caricature. Les philosophes eux-mêmes avaient à être initiés à certains mystères de perception avant de pouvoir comprendre la véritable idée que se faisaient les anciens de cette question de haute métaphysique. Autrement, c'est-à-dire sans cette initiation, la capacité intellectuelle de chaque penseur lui dirait « Tu iras jusque-là, mais pas plus loin. » Aussi clairement et aussi évidemment que la loi de karma impose une limite au progrès de chaque nation ou race dans leur cycle. Sans initiation, l'idéal de la pensée religieuse contemporaine aura toujours les ailes rognées et restera incapable d'un haut envol, car les penseurs idéalistes et réalistes, et même les libres penseurs, ne sont que le résultat et le produit naturel de leur propre milieu et de leur temps. L'idéal de chacun, d'eux, n'est que le résultat inévitable de son tempérament et le produit du degré de progrès intellectuel auquel est parvenue une nation, prise dans son ensemble. C'est pourquoi, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, les plus hautes envolées de la métaphysique occidentale moderne sont restées bien au-dessous de la vérité. La plupart des spéculations agnostiques sur l'existence de la cause première ne sont que du matérialisme déguisé. Il n'y a que la terminologie qui diffère. Un aussi grand penseur que Herbert Spencer lui-même parle parfois de l'inconnaissable en termes qui prouvent l'influence fatale de la pensée matérialiste, qui, semblable au sirocco mortel, fane et flétrit toutes les théories ontologiques courantes. Par exemple, lorsqu'il appelle la cause première l'inconnaissable, un pouvoir qui se manifeste par des phénomènes et une énergie infinie et éternelle, il est clair qu'il n'a saisi que l'aspect physique du mystère de l'être, les énergies de la substance cosmique seulement. L'aspect co-éternel de l'unique réalité, l'idéation cosmique, n'est absolument pas prise en considération, et quant à son noumen, il ne semble pas exister dans l'esprit du grand penseur. Sans aucun doute, cette façon partiale de traiter le problème est due dans une large mesure à la fâcheuse habitude que l'on a en Occident de subordonner la conscience à la matière ou de le considérer comme un sous-produit du mouvement moléculaire. Depuis les premiers temps de la quatrième race, alors que l'on adorait que l'esprit et que le mystère se trouvaient manifestés, jusqu'au dernier jour de splendeur de l'art grec, à l'aube du christianisme, les Hellènes seuls avaient osé élever publiquement un autel au Dieu inconnu. Quelle qu'ait pu être la pensée profonde de saint Paul lorsqu'il déclarait aux Athéniens que cet inconnu qu'ils adoraient sans le connaître était le vrai Dieu dont il annonçait la venue, cette divinité n'était pas Jéhovah, et n'était pas non plus le créateur du monde et de toutes choses. Car ce n'est pas le Dieu d'Israël, mais l'inconnu des panthéistes anciens et modernes, qui n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. La pensée divine ne peut être définie, ni sa signification expliquée, sauf par les innombrables manifestations de la substance cosmique, dans laquelle cette pensée est perçue spirituellement par ceux qui en sont capables. Dire cela, après l'avoir dépeinte comme la divinité inconnue, abstraite, impersonnelle, sans sexe, qui doit être placée à la racine de toute cosmogonie et à son évolution ultérieure, équivaut à ne rien dire du tout. C'est comme si l'on essayait de résoudre une équation transcendante de conditions en ne disposant pour déterminer la valeur réelle de ces termes que d'un certain nombre de quantités inconnues. Sa place se trouve dans les antiques chartes symboliques de jadis, où, comme nous l'avons déjà dit, elle est représentée par des ténèbres infinies, sur la surface desquelles apparaît, en blanc, le premier point central, symbole de l'esprit matière contemporain, et co-éternel faisant son apparition dans le monde phénoménal avant sa première différenciation. Lorsque l'unique devient deux, on peut alors le qualifier d'esprit et de matière. On peut attribuer à l'esprit chaque manifestation de conscience, réfléchie ou directe, et l'intention inconsciente, pour adopter une expression moderne qu'emploie la prétendue philosophie occidentale, comme le prouve le principe vital et la soumission de la nature à l'ordre majestueux de la loi immuable. Il faut considérer la matière comme la plus pure abstraction de l'objectivité, la base existant par elle-même, dont les différenciations manvantariques septénaires constituent la réalité objective qui se cache sous les phénomènes de chaque phase de l'existence consciente. Pendant la période d'universel pralaya, l'idéation cosmique n'existe pas, et les états diversement différenciés de la substance cosmique sont réabsorbés dans l'état primordial d'objectivité potentielle abstraite. L'impulsion manvantarique commence avec le réveil de l'idéation cosmique, du mental universel, de son état pralaïque non différencié, conjointement et parallèlement à l'émergence primordiale de la substance cosmique, cette dernière étant le véhicule manvantarique du premier. La sagesse absolue se reflète alors dans son idéation, qui par un processus transcendantal, supérieur à la conscience humaine et incompréhensible pour elle, se transforme en Foat, l'énergie cosmique. Vibrant dans le sein de la substance inerte, Foat la pousse à l'activité et dirige ses premières différenciations sur tous les sept plans de la conscience cosmique. Il y a ainsi sept protiles, comme on les appelle maintenant, tandis que l'antiquité arienne les appelait les sept prakriti ou nature, servant chacun de base relativement homogène, qui, au cours de l'hétérogénéité croissante dans l'évolution de l'univers, se différencie dans la merveilleuse complexité des phénomènes qui se produisent sur les plans de perception. Le terme « relativement » est employé à dessein parce que l'existence même d'un tel processus ayant pour résultat les ségrégations primaires de la substance cosmique non différenciée, suivant ces sept bases d'évolution, nous oblige à considérer le protyle de chaque plan comme n'étant qu'une phase intermédiaire traversée par la substance pendant son passage de l'objectivité abstraite à l'objectivité complète. Note. Le terme de protyle est dû au professeur Crookes, l'éminent chimiste, qui a donné ce nom à la prématière, si l'on peut appeler ainsi la substance primordiale purement homogène qui est soupçonnée, sinon encore découverte, par la science dans la composition ultime de l'atome. Mais la séparation commençante de la matière primordiale en atomes et molécules ne prend son essor qu'après l'évolution de nos sept protyles. C'est le dernier de ceux-ci que cherche le professeur Crookes après avoir récemment reconnu la possibilité de son existence sur notre plan. Fin de la note. On dit que l'idéation cosmique n'existe pas durant les périodes pralaïques pour la simple raison qu'il n'y a rien ni personne pour en percevoir les effets. Il ne peut pas y avoir de manifestation de conscience, de semi-conscience ou même d'intention inconsciente sans un véhicule de matière. C'est-à-dire que sur notre plan actuel, où la conscience humaine, dans son état normal, ne peut s'élever au-dessus de ce que l'on appelle la métaphysique transcendante, ce n'est qu'en vertu de certaines agrégations ou constructions moléculaires que l'esprit surgit comme un torrent de subjectivité individuelle ou sous-consciente. Et comme la matière, séparée de la perception, n'est qu'une pure abstraction, ces deux aspects de l'absolu, la substance cosmique et l'idéation cosmique, dépendent mutuellement l'un de l'autre. Pour être strictement correct et éviter toute confusion et toute fausse conception, le mot matière devrait être appliqué à l'ensemble des objets dont la perception est possible, et le mot substance au noumen. En effet, puisque les phénomènes de notre plan sont les créations de l'ego qui perçoit, des modifications de sa propre subjectivité, tous les états de matière qui représentent l'ensemble des objets perçus, ne peuvent avoir qu'une existence relative et purement phénoménale pour les enfants de notre plan. Comme diraient les idéalistes modernes, la coopération du sujet et de l'objet a pour résultat l'objet des sens ou le phénomène. Mais cela ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu'il en est de même sur tous les autres plans, que la coopération des deux sur les plans de leur différenciation septénaire a pour résultat un ensemble septénaire de phénomènes également non existants percés, bien qu'étant des réalités concrètes pour les entités dont ils forment une partie de l'expérience, de même que les rochers et les fleuves autour de nous sont réels aux yeux du physicien, tout en n'étant que de trompeuses illusions des sens pour le métaphysicien. Ce serait une erreur de dire ou même de concevoir pareille chose. Au point de vue de la métaphysique la plus haute, l'univers entier, y compris les dieux, est une illusion, Maya. Mais l'illusion de celui qui n'est lui-même qu'une illusion varie sur chaque plan de conscience, et nous n'avons pas plus le droit de dogmatiser sur la nature possible des facultés de perception d'un ego du sixième plan, par exemple, que nous n'avons le droit d'identifier nos perceptions avec celles d'une fourmi, ou de les prendre pour type de son mode de conscience. L'idéation cosmique, centrée dans un principe ou upadhi, base, a pour résultat la conscience de l'ego individuel. Sa manifestation varie selon la nature de l'upadhi. Avec celui que nous appelons manas, par exemple, elle se manifeste comme conscience mentale. Avec buddhi, formé d'éléments plus finement différenciés, entre parenthèses sixième état de la matière, et ayant pour base l'expérience de manas, elle se manifeste sous forme d'un courant d'intuition spirituelle. Le pur objet, séparé de la conscience, nous est inconnu, tant que nous vivons sur le plan de notre monde à trois dimensions, car nous ne connaissons que les états mentaux qu'il suscite dans l'ego qui le perçoit. Et tant que durera le contraste entre le sujet et l'objet, c'est-à-dire tant que nous ne jouirons que de nos cinq sens et que nous ne saurons pas comment dégager notre ego, qui perçoit tout, de l'esclavage de ses sens, il sera impossible à l'ego personnel de rompre la barrière qui le sépare d'une connaissance des choses en soi ou substance. Cet ego, progressant suivant un arc de subjectivité ascendante, doit épuiser l'expérience de chaque plan. Mais avant que l'unité soit noyée dans le tout, que ce soit sur ce plan ou sur tout autre, et avant que sujet et objet ne disparaissent tous deux dans l'absolue négation de l'état nirvanique, négation, rappelons-le, par rapport à notre plan seulement, on ne pourra pas gravir ce sommet de l'omniscience qui est la connaissance des choses en soi et approcher de la solution de l'énigme la plus terrible encore devant laquelle le plus haut des Dhyan Chohan lui-même doit se prosterner, silencieusement sans comprendre, de l'indicible mystère de ce que les Védantins appellent Parabrahman. Aussi les choses étant ce qu'elles sont, Tous ceux qui ont essayé de donner un nom au principe inconnaissable l'ont simplement dégradé. Parler même de l'idéation cosmique, sauf dans son aspect phénoménal, équivaut à essayer d'emmagasiner le chaos primordial ou de coller une étiquette sur l'éternité. Qu'est donc cette substance primordiale, cette chose mystérieuse dont parlait toujours l'alchimie et qui servait de thème aux spéculations philosophiques de toutes les époques? Que peut-elle bien être, en définitive, même dans sa prédifférenciation phénoménale? Même cela est le tout de la nature manifestée et n'est rien pour nos sens. On en parle sous divers noms dans toutes les cosmogonies, on s'y réfère dans toutes les philosophies, et jusqu'à nos jours c'est bien le protée de la nature se dérobant toujours à l'étreinte. Nous la touchons sans la sentir, nous la regardons sans la voir, nous la respirons sans en avoir conscience, nous l'entendons et la sentons sans avoir la moindre notion de sa présence, car elle se trouve dans chaque molécule de ce que dans notre illusion et notre ignorance nous considérons comme de la matière sous une quelconque de ses formes, et que nous concevons comme une sensation, une pensée, une émotion. En un mot, c'est l'upadi, ou le véhicule de tout phénomène possible, qu'il soit physique, mental ou psychique. Dans les premières phrases de la Genèse et dans la cosmogonie chaldéenne, dans les Puranas de l'Inde et dans le Livre des Morts d'Égypte, partout elle ouvre le cycle de manifestation. On l'appelle le chaos et la phase des eaux couvée par l'esprit jaillissant de l'inconnu, quel que soit le nom de cet esprit. Les auteurs des Écritures saintes de l'Inde vont plus profondément dans l'origine de l'évolution des choses que ne le font Thalès ou Job, car ils disent « De l'intelligence, appelée Mahat dans les Puranas, associée avec l'ignorance, entre parenthèses Ishvara comme divinité personnelle, assisté de son pouvoir de projection, dans lequel domine la lourdeur, tamas, l'insensibilité, procède l'éther, de l'éther l'air, de l'air de la chaleur l'eau et de l'eau la terre avec tout ce qu'elle contient. De ceci, de ce même soi, l'éther fut produit, dit le Védas. Il devient ainsi évident que ce n'est pas cet éther issu au quatrième degré d'une émanation de l'intelligence associée avec l'ignorance qui est le principe supérieur, l'entité divine adorée par les Grecs et les Latins sous le nom de Pater Omnipotens Aether et sous celui de Magnus Aether dans son agrégat collectif. La gradation septénaire et les innombrables subdivisions et différences établies par les anciens entre les pouvoirs de l'éther collectivement depuis la frange extérieure de ses effets qui est si familière à notre science, jusqu'à la substance impondérable dont on admettait jadis l'existence, comme éther de l'espace, mais que l'on est maintenant sur le point d'écarter, ont toujours été une déconcertante énigme pour toutes les branches du savoir. Les mythologues et les symbolistes de nos jours, déroutés par l'incompréhensible glorification, d'une part et par de l'autre la dégradation d'une seule et même entité divinisée, dans les mêmes systèmes religieux, ont été souvent conduits à des erreurs ridicules. L'Église, aussi ferme qu'un roc dans chacune de ses premières erreurs d'interprétation, a fait de l'éther la demeure de ses légions sataniques. La hiérarchie tout entière des anges déchus est là. Les cosmocratores, ou porteurs du monde, selon Bossuet, mundi tenentes, les soutiens du monde, comme Tertullien les appelle, mundi domini, les dominations du monde, ou plutôt les dominateurs, les curbati ou courbés, etc., faisant ainsi des étoiles et des globes célestes dans leur course, des diables. C'est en effet ainsi que l'Église a interprété le verset, ouvrez les guillemets, « car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre ceux qui gouvernent les ténèbres de ce monde », fermez les guillemets. Saint Paul fait plus loin mention des malices spirituelles répandues dans l'air, en parlant des spiritualia nequitia celestibus. Et les textes latins donnent divers noms à ces malices, qui sont les innocents élémentales. Mais cette fois l'Église a raison, bien qu'elle ait tort de les qualifier tous de démons. La lumière astrale, ou éther inférieur, est bondée d'entités conscientes, semi-conscientes et inconscientes. Seulement l'Église a moins de pouvoir sur elle que sur les microbes invisibles ou sur les moustiques. La distinction établie entre les sept états de l'éther, qui n'est lui-même qu'un des sept principes cosmiques, tandis que l'aéther des anciens est le feu universel, peut être constaté dans les commandements respectifs de Zoroastre et de Psellus. Le premier disait « Ne le consulte que lorsqu'il n'a ni forme ni figure. » Absque forma et figura, ce qui signifie sans flamme ni charbons ardents. Lorsqu'il est revêtu d'une forme, enseigne Psellus, n'y fais pas attention. Mais lorsqu'il est sans forme, obéis-lui, car c'est alors le feu sacré, et tout ce qu'il te révélera sera vrai. Cela prouve que l'éther, qui est lui-même un des aspects de l'aquasha, possède à son tour plusieurs aspects ou principes. Toutes les nations anciennes déifiaient l'aether sous son aspect et son pouvoir impondérable. Virgile appelle Jupiter, pater omnipotens, aether, le grand aether. Les hindous l'ont aussi classé parmi leurs divinités sous le nom d'Aquasha, la synthèse de l'aether. Et l'auteur du système homéomérien de philosophie, Anaxagoras de Clazomène, croyait fermement que les prototypes spirituels de toutes choses, tout comme leurs éléments, se trouvaient dans l'aether illimité, et ils étaient générés, d'où ils évoluaient et où ils rentraient. C'est de l'enseignement occulte. Il devient donc évident que c'est de l'aether dans son aspect synthétique le plus élevé que jaillit, lorsqu'il fut anthropomorphisé, la première idée d'une divinité créatrice personnelle. Pour les philosophes hindous, les éléments sont tamasa, c'est-à-dire non illuminés par l'intellect qu'ils obscurcissent. Il faut maintenant épuiser la question de la signification mystique du chaos primordial et du principe racine et montrer comment ils étaient liés dans les anciennes philosophies, avec l'aquasha, mal traduit par aether, et aussi avec maya, l'illusion, dont Ishvara est l'aspect masculin. Nous parlerons plus loin du principe intelligent, ou plutôt des propriétés invisibles et immatérielles des éléments visibles et matériels qui surgissent du chaos primordial. En effet, qu'est-ce que le chaos primordial sinon l'aether? Demande-t-on dans Isis dévoilée. Non pas l'éther moderne, non pas tel qu'il est admis maintenant, mais tel qu'il était connu des philosophes anciens, bien avant l'époque de Moïse. L'aether, avec toutes ses propriétés mystérieuses et occultes, contenant en lui-même les germes de la création universelle. L'aether supérieur, ou aquasha, est la céleste vierge et mère de toutes les formes et de tous les êtres qui existent, du sein de laquelle sont appelées à l'existence la matière et la vie, la force et l'action, aussitôt qu'elles ont été soumises à l'incubation de l'esprit divin. L'aether est l'aditi des hindous, et c'est en même temps l'aquasha. L'électricité, le magnétisme, la chaleur, la lumière et l'action chimique sont si peu compris, même de nos jours, alors que des faits nouveaux élargissent sans cesse le champ de nos connaissances. Qui sait où finit le pouvoir de ce géant protéin, l'aether? Ou quelle est son origine mystérieuse? Qui peut nier l'esprit qui travaille en lui et en évolue toutes les formes visibles? Ce sera une tâche facile de démontrer que les légendes cosmogoniques par toute la Terre sont basées sur la connaissance qu'avaient les anciens de ces sciences, qui de nos jours se sont unis pour soutenir la doctrine de l'évolution. De plus amples recherches pourraient démontrer que ces anciens connaissaient bien mieux que nous l'évolution elle-même et ses aspects physiques et spirituels. Chez les anciens philosophes, l'évolution était un théorème universel, une doctrine qui embrassait le tout et un principe établi, tandis que nos évolutionnistes modernes ne peuvent nous offrir que des théories spéculatives avec des théorèmes partiels, sinon tout à fait négatifs. Il est inutile de la part des représentants de notre sagesse moderne de clore le débat et de prétendre que la question est résolue, simplement parce que la phraséologie obscure du récit mosaïque n'est pas d'accord avec l'exégèse déterminée de la science exacte. Si nous considérons les lois de Manu, nous y trouvons le prototype de toutes ces idées. Bien que la plupart soient perdues dans leur forme originale pour le monde occidental, défigurées par des interpolations et des additions, elles n'en ont pas moins conservé assez de traces de leur ancien esprit pour en indiquer le caractère. Ouvrez les guillemets. Dissipant les ténèbres, le Seigneur existant par lui-même, Vishnu, Narayana, etc., se manifesta et, voulant produire des êtres de son corps, entre parenthèses essence, ne créa d'abord que l'eau seule. Dans cette eau, il jeta de la semence. Cette semence devint un œuf d'or. Fermez les guillemets. D'où vient ce Seigneur existant par lui-même? On l'appelle ceci et on le qualifie de ténèbres imperceptibles, sans qualité définie, indiscernable, inconnaissable, comme plongé dans un profond sommeil. Ayant habité cet œuf pendant toute une année divine, celui que le monde appelle Brahma brise cet œuf en deux, forme le ciel de sa partie supérieure et la terre de sa partie inférieure, et du centre le firmament et l'éternel emplacement des eaux. Mais immédiatement après ces versets des lois de Manu, il y a encore quelque chose de plus important pour nous, car cela corrobore absolument nos enseignements ésotériques. Du verset 14 au verset 36, l'évolution est donnée dans l'ordre que décrit la philosophie ésotérique. Cela ne peut être guère contesté. Medhatiti, lui-même, fils de Virasvamina et auteur du commentaire intitulé le Manubhashya, qui date, selon les orientalistes occidentaux, de l'an 1000 de notre ère, nous vient en aide grâce aux remarques qu'il fait pour élucider la vérité. Il se montre soit réticent parce qu'il savait ce que l'on doit taire aux profanes, soit très embarrassé. Cependant, le peu qu'il divulgue suffit à établir clairement le principe septénaire dans l'homme et dans la nature. Commençons par le chapitre 1 des ordonnances ou lois, après que le Seigneur existant par lui-même, le Logos non manifesté des ténèbres inconnues, se soit manifesté dans l'œuf d'or. C'est de cet œuf, de cela qui est la cause imperceptible, indifférenciée, éternelle, qui est et qui n'est pas, de cela est issu ce mâle qui est appelé dans le monde Brahma. Ici, comme dans tous les systèmes philosophiques authentiques, nous trouvons même l'œuf, ou le cercle, ou le zéro, l'infini sans borde, désigné par le mot « cela », et Brahma, qui n'est que la première unité, appelée le dieu mâle, c'est-à-dire le principe fructifiant. C'est le 10 ou la décade. Sur le plan du septénaire, c'est-à-dire sur notre monde seulement, il est appelé Brahma. Sur celui de la décade unifiée, dans le royaume de la réalité, ce Brahma mâle est une illusion. Du soi, Atmana, il crée à le mental, Manas, qui est et n'est pas, et du mental, l'égoïsme, la soi-conscience, le régent, le seigneur. Le mental est Manas. Medhatiti, le commentateur, fait observer ici avec raison que c'est juste le contraire et que cela prouve déjà l'existence d'interpolation et d'arrangement. En effet, c'est Manas qui jaillit de l'Ahamkara, ou soi-conscience universelle, de même que Manas, dans le microcosme, surgit de Maha ou Mahabuddhi, Bouddhi dans l'homme. Manas est double, comme le prouve Colebrook dans sa traduction. Le mental, servant pour l'essence comme pour l'action, est un organe par affinité qui est analogue au reste. Par le reste, on entend ici que Manas, notre cinquième principe, cinquième parce qu'on nommait le corps le premier, ce qui est contraire au véritable ordre philosophique, est en affinité à la fois avec Atma Bouddhi et avec les quatre principes inférieurs. C'est pourquoi nous enseignons notamment que Manas suit Atma Bouddhi en dévaquant, et que le Manas inférieur, c'est-à-dire le résidu ou la lie de Manas, reste avec le Kamarupa dans les limbes, ou le Kamaloka qui est la demeure des coqs. Tel est le sens de Manas qui est et qui n'est pas. Medhatiti le traduit par celui qui est conscient du jeu, ou l'ego, et non pas par le régent, comme le font les orientalistes. C'est ainsi qu'ils traduisent aussi la shloka suivante. Ayant fait pénétrer les parties subtiles de ces six, le grand soi et les cinq organes d'essence, d'une splendeur sans mesure dans les éléments du soi, Atma Matrasu, il créa aussi tous les êtres. Tandis que d'après Medhatiti, on devrait lire Matrabi au lieu de Atma Matrasu et traduire ainsi. Lui, ayant pénétré les parties subtiles de ces six d'un éclat démesuré, par des éléments de soi, créa tous les êtres. Cette dernière traduction doit être la seule correcte, puisque lui, le soi, est ce que nous appelons Atma, et constitue aussi le septième principe, la synthèse des six. Telle est aussi l'opinion de l'éditeur du Manava Dharma Shastra, qui paraît être entré par intuition beaucoup plus avant dans l'esprit de la philosophie que ne l'a fait le traducteur des ordonnances de Manu, feu le docteur Burnell. Il n'hésite guère, en effet, entre le texte de Kulukabata et le commentaire de Medhatiti. Rejetant l'état de matras ou élément subtil et l'atma matrasu de Kulukabata, il dit en appliquant les principes au soi cosmique, les six paraissent être plutôt le manas plus les cinq premiers principes de l'éther, de l'air, du feu, de l'eau et de la terre. Ayant uni cinq de ces six parties avec l'élément spirituel, le septième, Il créa ainsi toutes les choses qui existent. Atmamatra est par conséquent l'atome spirituel par opposition à l'atome élémentaire et non pas la réflexion des éléments de lui-même. Il corrige ainsi la traduction du verset 17. Comme les éléments subtils des formes corporelles de cet unique dépendent de ces six, il en résulte que les sages appellent sa forme Sharira. Et il ajoute que « élément » signifie ici « portion » ou « partie » ou « principe », interprétation appuyée par le verset 19 qui dit « Cet univers non éternel sort donc de l'éternel au moyen des éléments subtils des formes de ces sept principes très glorieux » entre parenthèses Purusha. En commentant cet amendement de Médatiti, l'éditeur fait remarquer que l'on entend probablement par là les cinq éléments plus le mental, manas, et la soi-conscience, Ahamkara, les éléments subtils signifiant comme auparavant les parties fines de la forme ou principe. Note. Ahamkara, en qualité de soi-conscience universelle, a un triple aspect, de même que Manas. Car cette conception du je ou de l'ego est ou sattva tranquillité pure, ou apparaît comme rajas actif, ou reste tamas inactif dans l'obscurité. Elle appartient au ciel et à la terre et prend les caractéristiques de l'éther. Fin de la note. Le verset 20 le montre en disant que ces cinq éléments, ou parties fines de la forme, entre parenthèses rupa, avec l'addition de manas et de la soi-conscience, qu'ils constituent les sept purushas, ou principes, appelés dans les puranas les sept prakritis. En outre, ces cinq éléments, ou parties fines, sont décrits dans le verset 27 comme ceux que l'on appelle les parties atomiques destructibles, et dès lors distinctes des atomes du Nyaya. Ce Brahma créateur, qui sort de l'œuf d'or du monde, réunit en lui-même les principes mâles et femelles. Il est en un mot le même que tous les proto-logoi créateurs. De Brahma, cependant, on aurait pu dire, comme de Dionysos, qu'il est premier-né, bisexué, d'aspect triple, seigneur bachique, sans contrainte, saint, à ne pas mentionner ouvertement, bicornu et double, un Jéhovah lunaire, un vrai Bacchus, avec David dansant nu devant son symbole dans l'arche, car il n'a jamais été établi de dionysiaque licencieuse en son nom ou en son honneur. Tout culte public de ce genre était exotérique et les grands symboles universels étaient partout défigurés, comme ceux de Krishna le sont maintenant par les Vallabhacharyas de Bombay, les sectateurs du dieu enfant. Mais ces dieux populaires sont-ils la vraie divinité? Sont-ils le sommet et la synthèse de la septuple création, y compris celle de l'homme? C'est impossible. Chacun d'eux et tous sont des degrés de cette échelle septénaire de conscience divine, qu'elle soit païenne ou chrétienne. On dit que Ein Sof ne se manifeste par les sept lettres du nom de Jéhovah, qui, ayant usurpé la place de l'inconnu sans limite, fut doté par ses adorateurs des sept anges de la présence. En réalité, c'est sept principes. On en parle pourtant dans presque chaque école. Dans la pure philosophie Samkhya, Maha, Ahamkara et les cinq Tanmatras sont appelés les sept Prakriti, ou nature, et sont énumérés depuis Mahabuddhi, ou Maha, jusqu'à la terre. Cependant, quelque défigurée qu'ait été pour des fins rabbiniques la version originale et éloïstique par Ezra, quelque répugnante que puisse être parfois l'interprétation ésotérique des textes hébreux, encore bien plus que ne peut l'être son voile ou vêtement extérieur, dès que les parties géoviques sont éliminées, on trouve que les livres mosaïques sont remplis d'inestimables connaissances purement occultes, surtout dans les six premiers chapitres. En les lisant à l'aide de la Kabbale, on trouve un temple sans pareil de vérités occultes, une source de beauté profondément cachée sous un édifice dont l'architecture visible, malgré sa symétrie apparente, est incapable de résister à la critique de la froide raison, ou de révéler son âge, car elle appartient à tous les âges. Il n'y a plus de sagesse cachée sous les fables exotériques des Puranas et de la Bible que dans tous les faits, et toute la science exotérique de la littérature du monde entier, et plus de vraie science occulte qu'il n'y a de savoir exact dans toutes les académies. Ou, pour parler plus clairement et plus énergiquement, il y a autant de sagesse ésotérique dans quelques parties des Puranas exotériques et dans le Pentateuque, qu'il y a de sottises et d'imagination volontairement enfantines, lorsqu'on n'en lit que la lettre morte, avec les criminelles interprétations des religions dogmatiques, et surtout de leurs sectes. Qu'on lise les premiers versets de la Genèse et qu'on y réfléchisse. On y voit Dieu commander un autre dieu qui lui obéit, et cela même dans la traduction autorisée et circonspecte des protestants anglais de l'époque de Jacques Ier. Au commencement, la langue hébraïque n'ayant pas de mots pour exprimer l'idée d'éternité, Dieu forme le ciel et la terre, et cette dernière est sans forme et vide, tandis que le premier est en fait non pas le ciel mais l'abîme, le chaos, voilé d'obscurité. Note numéro 1. Le mot éternité, par lequel les théologiens chrétiens interprètent le terme pour toujours et toujours, n'existe pas dans la langue hébraïque. Oulam, dit Leclerc, ne signifie qu'une époque dont le commencement et la fin ne sont pas connus. Il ne signifie pas durée infinie, et le terme pour toujours dans l'Ancien Testament ne signifie qu'une époque de longue durée. On ne se sert pas non plus dans les Puranas du mot éternité dans le sens chrétien. Car dans le Vishnu Purana, on explique clairement que par éternité et immortalité, on n'entend que l'existence jusqu'à la fin du Kalpa. Voir livre 2, chapitre 8. Fin de la note 1. Note 2. La théogonie orphique est purement orientale et indienne dans son esprit. Les transformations successives qu'elle a subies l'ont grandement séparée maintenant de l'esprit de l'antique cosmogonie, comme on peut le voir même en la comparant à la théogonie d'Hésiode. Le véritable esprit arien hindou perce cependant partout dans les systèmes hésiodiques et orphiques. Entre parenthèses, voir le travail remarquable de James Darmesteter, cosmogonie arienne dans ses essais orientaux. Fermez la parenthèse. De sorte que la conception grecque originale du chaos est celle de la religion sagesse secrète. Dans Hésiode aussi, le chaos est infini, sans borne, d'une durée sans commencement ni fin. En un mot, une abstraction et une présence visible tout à la fois, l'espace rempli de ténèbres qui est la matière primordiale dans son état pré-cosmique. Car dans son sens étymologique, le chaos est l'espace, selon Aristote, et l'espace dans notre philosophie est la divinité toujours invisible et inconnaissable. Fin de la note 2. Et l'esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux, c'est-à-dire sur le grand abîme de l'espace infini. Et cet esprit est Narayana ou Vishnu. Et Dieu dit que le firmament soit. Et Dieu, le second, obéit et fit le firmament. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce dernier verset ne signifie d'ailleurs pas la lumière, mais comme dans la Kabbale, l'androgyne Adam Kadmon ou Séphira, la lumière spirituelle, car ils ne font qu'un, ou selon le livre des nombres chaldéens, les anges secondaires, les premiers étant les Elohim, qui sont l'agrégat de ce Dieu façonnant. Car à qui sont adressés ces mots de commandement? Et qui est-ce qui commande? Ce qui commande, c'est la loi éternelle, et celui qui obéit, c'est l'Elohim. La quantité connue agissant dans et avec X, ou le coefficient de la quantité inconnue, la force de la force unique. Tout cela est de l'occultisme et on le trouve dans les stances archaïques. Il est absolument sans importance d'appeler ces forces les Dian Chohan ou les Ophanim, comme le fait Ézéchiel. La lumière universelle unique, qui pour l'homme est ténèbre, existe toujours, dit le livre des nombres chaldéens. C'est d'elle que procède périodiquement l'énergie, qui est réfléchie dans l'abîme ou le chaos, cet entrepôt des mondes futurs, et qui, une fois réveillée, agite et féconde les forces latentes qui constituent les potentialités éternellement présentes en lui. Alors s'éveillent de nouveau les Brahmas et les Bouddhas, les forces coéternelles et un nouvel univers en existence. Dans le Sefer Tietzira, le livre kabbalistique de la création, l'auteur a évidemment répété les paroles de Manu. La substance divine y est représentée comme ayant seule existé de toute éternité, illimitée et absolue, et comme ayant émis d'elle-même l'esprit. Note, l'esprit manifesté, deux points. L'esprit divin absolu est un avec la substance divine absolue. Parabrahman et Mulaprakriti ont la même essence. Par conséquent, l'idéation cosmique et la substance cosmique, dans leur caractère primordial, ne font aussi qu'un. Fin de la note. L'esprit du Dieu vivant est unique, béni soit son nom qui vit à jamais. La voix, l'esprit et le verbe, voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Extrait du Sefer Yetzira. Et c'est la trinité kabbalistique abstraite, anthropomorphisée, sans façon par les pères chrétiens. De cette triple unité est émané le cosmos tout entier. D'abord, du un est sorti le deux, ou l'air, entre parenthèses le père, l'élément créateur, puis le trois, l'eau, la mer, procéda de l'air, l'éther ou le feu complète le quatre mystique, l'arbo-al. Lorsque le caché des cachés voulut se révéler, il fit d'abord un point, entre parenthèses le point primordial ou la première séphira, l'air ou le Saint-Esprit, fermez la parenthèse, moulé dans une forme sacrée, entre parenthèses les dix séphirotes ou l'homme céleste, et le couvrit d'un vêtement riche et splendide, qui est le monde. Il fait des vents ses messagers, des feux flamboyants ses serviteurs, dit le Yetzira, montrant le caractère cosmique des éléments évéméristés plus tard, et prouvant que l'esprit pénètre chaque atome du cosmos. Entre parenthèses, partout dans les actes, Paul appelle les êtres cosmiques invisibles les éléments. Mais maintenant on a dégradé les éléments et on les a réduits au rang d'atomes, dont on ne connaît encore rien, et qui ne sont que les enfants de la nécessité, comme l'éther lui-même. Nous avons dit dans Isis dévoilée, les pauvres éléments primordiaux ont été longtemps exilés, et nos ambitieux physiciens luttent entre eux de vitesse, à qui ajoutera une nouvelle substance élémentaire à la couvée des 60 et quelques que nous avons déjà. En attendant, la guerre fait rage dans la chimie moderne au sujet des dénominations. On nous dénie le droit d'appeler ces substances des éléments chimiques, car ce ne sont pas des principes primordiaux, des essences existantes en soi, dont l'univers a été formé, suivant Platon. De telles idées, associées avec le mot « élément », étaient assez bonnes pour l'antique philosophie grecque. Mais la science moderne les rejette, car ainsi que l'a dit le professeur William Crookes, ce sont des termes malheureux, et la science expérimentale ne veut rien avoir à faire avec un genre quelconque d'essence, en dehors de celle qu'elle peut voir, sentir ou goûter. Elle laisse les autres aux métaphysiciens. Nous devons encore être reconnaissants pour ce peu. Fermez la parenthèse. Cette substance primordiale est appelée par quelques-uns le chaos. Platon et les pythagoriciens la nommaient l'âme du monde, après qu'elle avait été imprégnée par l'esprit de ce qui plane sur les eaux primordiales ou le chaos. C'est en s'y réfléchissant, disent les kabbalistes, que le principe qui couve créa la fantasmagorie d'un univers visible et manifesté. Le chaos avant, l'éther après cette réflexion, c'est toujours la divinité qui pénètre l'espace et toute chose. C'est l'esprit invisible et impondérable des choses et le fluide invisible, mais qui n'est que trop tangible, qui jaillit des doigts du magnétiseur saint, car c'est l'électricité vitale, la vie elle-même. Ironiquement dénommé le tout-puissant nébuleux par le marquis de Mirville, il n'en est pas moins appelé jusqu'à nos jours le feu vivant par les théurgistes et les occultistes, et il n'y a pas d'hindou pratiquant à l'aurore une certaine sorte de méditation qui n'en connaisse les effets. Note. En traitant cette question dans Isis dévoilée, nous avons dit « Le chaos des anciens, le feu sacré de Zoroastre ou l'attache Béram des Parsis, le feu Helmès des anciens Germains, l'éclair de Cybèle, la torche flamboyante d'Apollon, la flamme sur l'autel de Pan, le feu inextinguible du temple de l'Acropole et de celui de Vesta, la flamme de feu du casque de Pluton, les étincelles brillantes des coiffures des Dioscures et de la tête de la Gorgone, du casque de Pallas et du bâton de Mercure, le Ptara des Égyptiens, le Zeus Kataibats, grec, celui qui descend de Pausanias, les langues de feu de la Pentecôte, le buisson ardent de Moïse, la colonne de feu de l'Exode et la lampe brûlante d'Abraham, le feu éternel de l'abîme sans fond, les vapeurs de l'oracle de Delphes, la lumière sidérale des Rose-Croix, la kwasha des adeptes hindous, la lumière astrale d'Eliphas Lévi, l'aura nerveuse et le fluide des magnétiseurs, l'hôte de Reichenbach, les forces psychodes et ecténiques de Thury, la force psychique de Sergent Cox et le magnétisme atmosphérique de quelques naturalistes, le galvanisme et enfin l'électricité. Tout cela n'est que la terminologie variée des multiples manifestations ou des effets de la même cause mystérieuse et omnipénétrante, l'arché grec. Nous pouvons encore ajouter maintenant, c'est tout cela et bien plus encore. Fin de la note. C'est l'esprit de lumière et c'est Magnès. Comme le dit si bien un adversaire, Magus et Magnès sont deux branches issues du même tronc et produisant les mêmes résultantes. Et dans cette appellation de feu vivant, nous pouvons aussi découvrir la signification de la phrase énigmatique du Zen d'Avesta. Il y a un feu qui donne la connaissance de l'avenir, la science et la facilité d'élocution. C'est-à-dire qui développe une éloquence extraordinaire chez la sibylle, le sensitif et même chez certains orateurs. On parle de ce feu dans tous les livres sacrés hindous, comme aussi dans les ouvrages de Kabbale. Le Zohar le décrit comme le feu blanc caché dans la Risha Avura, la tête blanche, dont la volonté est cause que le fluide ardent coule en 370 courants dans toutes les directions de l'univers. Il est identique au serpent qui court en faisant 370 bonds du Sifrat Zenyuta, le serpent qui, lorsque l'homme parfait, le Métatron, est produit, c'est-à-dire lorsque l'homme divin habite dans l'homme animal, devient trois esprits, ou Atma Buddhi Manas, suivant notre phraséologie théosophique. Aussi l'esprit, ou l'idéation cosmique, et la substance cosmique, dont l'un des principes est l'éther, ne font qu'un, et comprennent les éléments dans le sens que leur donne saint Paul. Ces éléments sont la synthèse voilée qui représente les Dhyanchohan, les Devas, les Sephiroth, les Amshaspend, les archanges, etc. L'éther de la science, l'illus de Bérose ou le protyle de la chimie, constitue pour ainsi dire la matière relativement grossière dont les constructeurs, dont nous avons déjà parlé, forment les systèmes du cosmos, suivant le plan qui leur est éternellement tracé dans la pensée divine. On nous dit que ce sont des mythes. Nous répondrons que ce ne sont pas plus des mythes que ne le sont l'éther et les atomes. Ces deux derniers sont des nécessités absolues pour la science physique et les constructeurs sont une nécessité aussi absolue pour la métaphysique. On nous raille en objectant « vous ne les avez jamais vus ». Nous demandons aux matérialistes « avez-vous jamais vu l'éther ou vos atomes ou même votre force ?» D'ailleurs, l'un des plus grands évolutionnistes occidentaux de nos jours, celui qui a fait la même découverte que Darwin, Wallace, discutant l'insuffisance de la sélection naturelle pour expliquer à elle seule la force physique de l'homme, admet l'action dirigeante d'intelligence supérieure comme une partie nécessaire des grandes lois qui gouvernent l'univers matériel. Ces intelligences supérieures sont les Dhyanchohan des occultistes. Il est vrai qu'il y a peu de mythes, dans quelque religion digne de ce nom que ce soit, qui n'aient une base historique aussi bien que scientifique. Les mythes, comme Pococke le fait remarquer avec raison, sont actuellement tenus pour des fables en proportion de la fausse interprétation que nous leur donnons, et pour des vérités dans la mesure où on les comprenait jadis. L'idée la plus saillante et la plus répandue que nous rencontrons dans tous les enseignements anciens au sujet de l'évolution cosmique et de la première création de notre globe, avec tous ses produits, organiques et inorganiques, mot étrange pour la plume d'un occultiste, est que le cosmos entier a jailli de la pensée divine. Cette pensée imprègne la matière, qui est coéternelle avec la réalité unique, et tout ce qui vit et respire découle des émanations de l'immuable unité, Parabrahman Mula Prakriti, la racine unique éternelle. La première partie de cette expression, considérée comme point central affecté pour ainsi dire à des régions absolument inaccessibles à l'intellect humain, est l'abstraction absolue, tandis que sous son aspect de Mula Prakriti, la racine éternelle de tout, elle nous donne tout au moins une vague idée du mystère de l'être. On enseignait par conséquent dans les temples intérieurs que cet univers visible d'esprit et de matière n'est que l'image concrète de l'abstraction idéale, qu'il était construit sur le modèle de la première idée divine. Notre univers existait donc de toute éternité à l'état latent. L'homme qui anime cet univers purement spirituel est le soleil central, la divinité la plus haute elle-même. Ce ne fut pas l'unique qui construisit la forme concrète de l'idée, mais le premier engendré, et comme elle était construite suivant la forme géométrique du dodécaèdre, le premier engendré se plut à employer 12 000 ans à sa création. Ce dernier nombre est exprimé dans la cosmogonie tyrrhénienne, qui montre l'homme créé dans le 6e millénium. C'est d'accord avec la théorie égyptienne des 6 000 ans et avec la computation hébraïque. Mais c'en est la forme exotérique. La computation secrète explique que les 12 000 ans et les 6 000 ans sont des années de Brahma, un jour de Brahma égalant 4 320 000 000 d'années. Sankonyaton, dans sa cosmogonie, déclare que lorsque le vent, l'esprit, se prit d'amour pour ses propres principes, le chaos, une union intime eut lieu, laquelle union fut appelée potos, et de cela sortit la semence de tout. Et le chaos ne connut pas sa propre production car il était dépourvu de sens, mais de son embrassement avec le vent fut généré mot ou lilus, le limon. De cela sortirent les semences de la création et de la génération de l'univers. Zeus, Zen, l'aether, Ectonia, la terre chaotique, et Métis, l'eau, ses épouses, Osiris, représentant aussi l'aether, la première émanation de la divinité suprême, Amon, la source primordiale de lumière, et Isis Latone, la déesse terre, et aussi eau, Mithras, le dieu né du rocher, le symbole du feu du monde masculin, ou la lumière primordiale personnifiée, et Mitra, la déesse du feu, à la fois sa mère et sa femme, le pur élément du feu, le principe actif ou masculin, considéré comme lumière et chaleur, en conjonction avec la terre et l'eau, ou la matière, l'élément féminin ou passif, l'élément de la génération cosmique, Mithras qui est le fils de Borj, la montagne persane du monde, de laquelle il jaillit sous forme d'un radieux rayon de lumière, Brahma, le dieu du feu, et sa féconde épouse Elani hindoue, la resplendissante divinité dont le corps émet 1000 courants de gloire et 7 langues de flamme, et en l'honneur de qui certains brahmanes entretiennent encore de nos jours un feu perpétuel, Shiva personnifié par Meru, la montagne du monde des hindous, le terrible dieu du feu qui, selon la légende, descendit du ciel comme le Jéhovah des Juifs, dans une colonne de feu, et une douzaine d'autres divinités archaïques aux deux sexes, tous proclament à haute voix leur signification secrète. Et quelle pourrait être la double signification de ces mythes, si ce n'est le principe psychochimique de la création primordiale, la première évolution dans sa triple manifestation d'esprit, de force et de matière, la corrélation divine à son point de départ, représentée par l'allégorie du mariage du feu et de l'eau, les produits de l'esprit électrisants, l'union du principe mâle actif avec l'élément femelle passif, qui deviennent les pères et mères de leur enfant tellurien, la matière cosmique, la prima materia dont l'homme est l'éther et dont l'ombre est la lumière astrale. Mais les fragments des systèmes cosmogoniques qui nous sont parvenus sont maintenant rejetés comme des fables absurdes. Néanmoins, la science occulte, qui a survécu même au grand déluge qui engloutit les géants antédiluviens et jusqu'à leurs souvenirs, à l'exception des annales conservées dans la doctrine secrète, dans la Bible et dans d'autres écritures, détient encore la clé de tous les problèmes du monde. Appliquons donc cette clé aux rares fragments de cosmogonie depuis longtemps oubliés, et au moyen de leurs parties éparses, essayons de rétablir la cosmogonie jadis universelle de la doctrine secrète. La clé s'adapte à toutes. Nul ne peut étudier sérieusement les philosophies antiques sans s'apercevoir que la similarité frappante de leurs conceptions, visible souvent dans leur forme exotérique et toujours dans leur esprit caché, résulte non d'une simple coïncidence mais d'un plan commun, et que durant l'enfance de l'humanité, il n'existait qu'un langage, un savoir, une religion universelle, quand il n'y avait ni église, ni credo, ni secte, chaque homme étant son propre prêtre. Et si l'on montre qu'à ces époques lointaines et cachées à notre vue par une luxuriante floraison de traditions, la pensée humaine religieuse se développait déjà sur toutes les parties du globe avec une sympathie uniforme, il devient dès lors évident que cette pensée religieuse, sous quelque latitude qu'elle soit née, dans le nord glacé ou le sud brûlant, en Occident ou en Orient, était inspirée par les mêmes révélations, et que les hommes étaient élevés à l'ombre protectrice du même arbre de la connaissance.